Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport. On est ici à Barcelone, effectivement, pour le week-end de grand départ. Grand soleil, hein, ici sur la cité catalane, où les coureurs vont arriver en fin d'après-midi. Départ de Tarragone aujourd'hui. Vous savez, c'est sur le littoral, évidemment, pour arriver encore une fois au sommet de cette colline de Montjuïc, lieu où se trouve le parc olympique des JO de 92. On est avec Marc Madiot, avec Jérôme Coppel, avec Pascal Duprat. Ça va, Marc, au lendemain de chrono par équipe qui est dans l'équipe, il y a eu quelques mauvaises nouvelles.
On va avoir une grosse pensée pour Clément Vertet, qui malheureusement ne va pas prendre le départ aujourd'hui, commotion.
Ouais, hier, ça a été grosse chute hein, sur
grosse chute de coureur, lui et
Guillaume Martin.
Guillaume lui repart, mais on a quand même été bien touché. C'est dommage parce qu'on termine 8e. Alors, c'est une belle performance, mais je pense qu'on aurait été un cran au-dessus encore sans cette chute. Et on aurait été, je pense qu'on aurait pu faire top 5.
Ouais, avec un impressionnant Romain Grégoire hein, sur la dernière ascension de Montjuïc. Non, mais Jérôme, parcours piégeux hein, à Barcelone, on a vu des chutes impressionnantes. Hein.
Ah oui, il y a eu beaucoup de chutes. Astana, ben, Marc vient de dire pour ses coureurs, on a vu Mohoric aussi aller dans les barrières. Non, c'est très technique. Ah, les routes sont toujours un peu grasses ici, ça glisse, il y a énormément de bouches d'égout, d'où la chute de tes coureurs Marc et d'Astana. Donc aujourd'hui, il faudra faire attention sur cette étape-là.
Ouais, je vous respecte chaque jour un peu plus, les rouleurs. Là. Tu sais que parfois tu dis qu'on n'en parle pas assez contre la montre.
Mais Marc n'aime pas trop le chrono non plus. Donc je suis pas en position de force.
Ben, vite fait. Évidemment, intégral tour dès 13h pour la deuxième étape. Vous pouvez également écouter la radio digitale RMC 100% route sur votre application. La première heure des grandes gueules du sport, on va retrouver en podcast, évidemment. On a longuement parlé avec Eric Dimeco de l'équipe de France, qualifiée dans la douleur face au Paraguay. On affrontera le Maroc jeudi. On va se poser la question dans un instant. Est-ce que Mbappé est devenu un grand capitaine? Il a balancé une bonne punchline qui a fait le tour du monde après la rencontre. Bah, notamment sur le fait que les Français ils savent jouer dur quand il faut jouer dur. Ils l'ont montré hier. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, remportez un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photoprint. Ça tombe bien, c'est le début de l'été. On a envie toujours d'imprimer les photos, les garder pas forcément que sur votre téléphone et tout ça. C'est bien d'avoir quelque chose de physique et d'avoir l'album ou pourquoi pas imprimer une photo sur votre mug, par exemple, ou un poster géant de Jérôme Coppel pour remporter votre bon cadeau Agfa Photoprint. Appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7 32 16. Sport au 7 32 16. J'aimerais bien savoir à quel point je peux avoir de l'influence sur nos auditeurs. Ils disent bah oui tiens, ah pourquoi j'imprimerais pas un poster de Jérôme Coppel
dans mes toilettes, ça pourrait m'aider par exemple.
Allez les amis, sur le ring, le Tour de France après un chrono par équipe inaugural ici à Barcelone. Le maillot jaune n'est donc pas sur les épaules de Pogacar, c'est son grand rival Jonas Vingegaard qui a frappé le premier coup hier. Vous l'avez vécu sur RMC.
RMC, le ring des GG.
C'est parti pour Jonas Vingegaard. On se croirait dans une étape de montagne, dans ce contre-la-montre par équipe, contre-la-montre individuelle désormais. Une minute pour terminer, pour passer la ligne pour Jonas Vingegaard. Le double vainqueur du Tour de France est peut-être en train de taper un grand coup lors de cette première étape. Et voilà, il passe la ligne avec 8 secondes d'avance. Jonas Vingegaard, 7 secondes, 33 centièmes. El campeón, Seiyama Vingegaard. Mais il reste un garçon en piste. Tadej Pogacar. C'est parti pour Tadej Pogacar qui accélère et Isaac Del Toro qui ne va pas réussir à suivre la fusée. Tadej Pogacar, la fusée slovène est partie. C'est parti pour Tadej Pogacar. 500 mètres encore à parcourir. À mon avis, il va être derrière Vingegaard. Hein, 30 secondes.
Non, mais 30 secondes, 500 mètres, c'est pas possible. Hein.
Et oui, voilà.
Non, il sera derrière. Il sera battu, Poggi.
Le temps qui s'égrène, Tadej Pogacar ne sera pas maillot jaune aujourd'hui. Il va être obligé de laisser la place à Jonas Vingegaard. 11 secondes et 28 centièmes pour Tadej Pogacar, 3e.
C'est le premier enseignement de cette étape. Vingegaard est là, est bien là.
Oui, mais la bonne affaire est pour qui au final? Est-ce qu'elle est vraiment pour Jonas Vingegaard ou est-ce qu'elle est pour Tadej Pogacar qui est qu'à 11 secondes sans le maillot jaune?
Il n'y a pas de contre-performance des uns ou des autres, mais il y en a un qui a pris un ascendant psychologique léger sur l'autre, qui a gagné, qui sera en maillot jaune demain matin, ce sera Vingegaard, ce ne sera pas Tadej Pogacar. Le match est lancé.
Le match est lancé, nous a dit Jérôme Pinot hier. Visma Lisebike qui a donc été l'équipe la plus rapide sur les 18 km dans Barcelone. Et Jonas Vingegaard, la plus belle fusée au sommet de la colline de Montjuïc. Le Danois est en jaune pour la première fois depuis 3 ans, avec 8 secondes d'avance sur Filippo Ganna au général et 12 sur son grand rival Tadej Pogacar. Vingegaard, récent vainqueur du Giro, est en forme comme il l'avait annoncé au début de son deuxième grand tour de la saison. Les GG, je vous pose cette question. Est-ce que Vingegaard envoie un vrai message à Pogacar? Alors j'ai un oui, celui de Pascal Duprat, et j'ai deux noms. Allez, il va falloir que tu sois puissant, hein, Pascal, hein, je te préviens. Ceux de Jérôme et de Marc sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Vous dites plutôt non à 74%. Vous pensez, vous avez du mal à voir quand même la domination de Pogacar vraiment être mise à mal. On va en débattre dans un instant. Mais d'abord, Maria Azé, elle aussi était sur le chrono tortueux hier sur la moto RMC pour nous faire vivre ça. Salut Maria.
Salut Georges, salut tout le monde.
Bon Maria, comment Vingegaard et ses adversaires ont parlé de ce premier coup de force, on va l'appeler comme ça, de ce Tour de France?
Bah, c'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à voir un grand favori en jaune dès le premier jour, mais Jonas Vingegaard clairement assume son statut, hein. Il avait annoncé avant le début du Tour de France qu'il était dans la forme de sa vie et il ne s'est pas caché sur ce contre-la-montre par équipe, ce qu'on peut pas parfois lui reprocher. C'est la première fois que le Danois revêtit le maillot jaune depuis le 23 juillet 2023, donc forcément il était très heureux à l'arrivée.
C'est vraiment incroyable. Pour moi, c'est un rêve que j'ai depuis 2023 et ce n'est que la première étape. Mais oui, même si ce n'est que pour peu de temps, je vais apprécier porter le maillot jaune. Bien sûr, les écarts sont minimes, mais notre objectif est d'essayer d'arriver à Paris avec le maillot jaune.
Alors ce coup de force montre aussi la densité de la formation Visma Lisebike sur ce Tour de France, avec notamment un Davide Piganzoli et un Matteo Jorgensen impressionnant hier. Un début de tour parfait pour le français de l'équipe Bruno Armirail.
Ouais, c'est cool, c'est une victoire d'équipe. Et puis Jonas prend le maillot, donc c'est sûr que c'est un tour qui démarre idéalement. Après, on est confiant, voilà, on sait que Jonas il marche fort. Vaut mieux avoir de l'avance que du retard.
Jonas Vingegaard compte désormais 12 secondes d'avance sur Tadej Pogacar après cette première étape, mais pas de quoi inquiéter le Slovène à l'arrivée, qui a quand même dû passer par le protocole pour son maillot de meilleur grimpeur.
Non, j'en suis vraiment content. J'ai fait une super performance et ça m'a vraiment motivé pour les jours à venir.
Reste à savoir combien de temps Jonas Vingegaard va réussir à conserver son maillot jaune. L'étape du jour entre Tarragone et Barcelone s'annonce très piégeuse avec, tu le disais Georges, une triple ascension de la côte de Montjuïc.
Exactement, ça promet aujourd'hui, ça a peut-être dynamité dans le circuit final ici à Barcelone. On se pose donc cette question, est-ce que Vingegaard envoie un vrai message à Pogacar? Tiens, avant de vous écouter les cyclistes, j'ai envie d'écouter Pascal, d'avoir le regard de Pascal là-dessus. Pourquoi est-ce que tu l'as traduit comme ça, toi, avec
parce
ton
que
regard
hier, j'ai bien
grand public?
Hier, tu m'as donné le loisir de bien écouter les spécialistes sur le sujet, donc que sont Marc et les deux Jérôme. Je vais ajouter Christophe Cessieux également hier, parce que vous étiez tous unanimes pour me dire, pour nous dire, alors le week-end n'est pas terminé, j'ai entendu ce que vous avez dit, que normalement, eh bien, Pogacar devait marquer son territoire, tel un tigre, au travers de ces deux étapes. Donc j'attends la deuxième, mais toujours est-il que jamais. Et pardon messieurs, je connais votre expertise, vous êtes peut-être dans le cyclisme des super grands tacticiens, mais jamais une seule fois vous m'avez dit hier que Vingegaard pouvait en prendre le maillot jaune et après cette première étape. Donc moi, je vois juste une chose, c'est que Vingegaard et son équipe, eh bien, ils montrent, après cette première étape, qu'ils sont là, et bien là, ce que l'on pressentait après le Tour d'Italie de Vingegaard. Donc Vingegaard est en forme, et ça c'est un premier enseignement, et je pense que ce message-là, il l'envoie à Pogacar. Pogacar dit, parce que je crois que la dernière bosse, c'est Pogacar qui fait le meilleur chrono, c'est ça, vous m'arrêtez si je me trompe.
C'est ça, ouais.
Donc il est bien sûr dans son rôle.
Donc il n'y a pas de message.
Si, il y a un message. Vingegaard est en grande forme et il faut
Pogacar était plus vite.
Pogacar ne pourra pas faire l'économie, il va falloir qu'il soit à son meilleur niveau pour mettre Vingegaard en difficulté. Réponse. Non mais on n'aura pas de grande gueule demain. Apparemment, puisque c'est lundi, mais moi j'attends avec impatience. et j'espère que on va pouvoir ensemble se parler par WhatsApp interposé pour savoir si, parce que pour l'instant, Marc et Jérôme, pour l'instant, hier j'étais complètement convaincu, mais là, je suis à demi rassuré. Ça veut dire que j'espère que le Tour de France sera sensationnel et que au vélo, comme partout, dans n'importe quel sport, rien n'est écrit par avance. Voilà, voilà mes arguments.
Non mais c'est vrai, il a été bon. Il lâche rien. Mais il a été très convaincant pour le coup. Oui, non mais c'est vrai que tout le monde n'aurait pas parié sur Vingegaard en jaune avec cette avance là dès la première journée, Marc.
Oui, mais quand on regarde les temps d'ascension, parce qu'en fait le chrono d'hier, il y a une large partie qui est réservée aux équipiers, aux armirails et autres coureurs qui ont fait la partie plate. Ce qui est intéressant à observer, c'est le temps de montée effectué par les principaux leaders. Et sur ce pointage-là, c'est Pogacar qui monte le plus vite. Donc oui, ces 7 secondes qui sont au bénéfice de Vingegaard, et pour la nature du spectacle et pour l'intérêt de la course, c'est sympa, c'est intéressant.
Et pour la force de son équipe aussi.
Et pour la force de son équipe, c'est intéressant.
C'est une force collective qui est montrée. Hein.
Néanmoins, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose hier. Je pense que l'arrivée d'aujourd'hui va être peut-être plus explicite. Si tant est qu'il y ait une arrivée massive du peloton sur les derniers kilomètres.
Enfin, on n'a pas vu grand-chose, mais si Vingegaard avait ce matin 20 secondes de retard sur Pogacar, on dirait déjà il ne va pas y avoir de suspense. Là, c'est l'inverse.
Donc, merci, Jérôme.
Bah oui, tu sais que je suis là pour t'aider.
Hein. Là où Pascal a raison, et moi le premier, j'avais pas du tout mis Vingegaard et son équipe favori hier. Ni UAE pour le coup, pour moi c'était Net Company Neos, oui, les grands favoris. Voilà, ils ont eu les faits de course qui se sont passés. Maintenant, c'est pas les 12 secondes que Vingegaard a pris sur Pogacar qui vont faire la différence, et surtout il reste encore 3300 km. Donc on va pas se faire une idée, on va pas dire après 19 km que Vingegaard est plus fort et a tapé du poing sur la table, etc. Ce qui montre, c'est comme on le connaît depuis le début, c'est qu'au Tour de France, il est toujours prêt avec un Giro avant ou pas.
Eh oui, mais là, il a fait un Giro avant, donc ouais, effectivement.
Mais justement,
il pouvait y avoir une part d'inconnu.
Oui,
c'est la conséquence de son équipe. C'est la conséquence de son équipe.
Ce que Marc a bien dit, c'est que la première partie était pour les équipiers. Si tu prends les deux formations, si tu prends dans la formation de Vingegaard, Affini, très bon rouleur, Armirail, ancien champion de France, Campanert, ancien champion de Belgique de chrono, rajoutes Jorgensen, ils ont quand même énormément de rouleurs qui ne l'ont pas chez UAE, même s'ils ont des polites, etc., qui roulent bien, c'est quand même pas le même calibre. Donc c'est vraiment son équipe qui a réussi à faire gagner Vingegaard au final. Parce que le format est aussi différent.
Bien
si
sûr.
C'était
alors,
l'ancien format, il n'aurait peut-être pas gagné.
Accordez-moi, messieurs, la réflexion suivante. Donc, pour le moins, le suspense reste entier. Voilà.
Mais
je pensais que le suspense allait être tout d'un coup, j'attends cet après-midi. Et franchement, je bois vos paroles.
On s'est peut-être mal exprimé.
C'est pas vous manquer de respect. Attention.
Non, pas du tout.
D'accord.
Moi, je le prends comme ça. Débat, Pascal.
Oui, évidemment. Non, moi, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est le petit bloc de 4-5 jours là qui arrive, entre hier et les 2-3 étapes qui arrivent.
On va arriver rapidement dans
les étapes. Et c'est là où on va sentir l'impact. L'impact que va mettre Pogacar. Et pour moi, l'objectif de Pogacar, il est simple. C'est à la sortie de cette portion de course sur 3-4 étapes, c'est de prendre l'ascendant psychologique sur le reste des favoris. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Alors, il y aura 3 secondes, il y aura 5 secondes, il y aura 10 secondes ou 15 secondes. Mais l'objectif de Pogacar, c'est de déjà mettre sous pression la concurrence et de bien faire comprendre que c'est toujours lui le taulier.
Et si d'aventure, c'était pas le cas, Marc? Moi, c'est ça la question.
Si c'est pas le cas, on rentre dans une autre phase de course qui va peut-être un petit peu chagriner Pogacar, qui va exciter Vingegaard et le stimuler. Et puis, il y a les quelques autres coureurs qu'on a autour, les Van der Poel, les Sexas et autres, qui ont forcément un rôle à jouer dans tout cela.
J'ai une deuxième question, en fait, parce que, comme tu le sais, j'adore le vélo. J'ai pas, bien sûr, votre expertise. Mais comment ça se fait que Nice Polite, hier, il a du mal à suivre. Il était malade?
Non, mais en fait.
Coéquipier de Pogacar.
Non. Ouais. Faut pas se fier aux apparences de ce qu'on a pu apercevoir hier sur les écrans de télévision. Ça a été un peu trompeur. En fait, dans chaque équipe, par rapport au chrono qu'il y avait à effectuer hier, il y avait une répartition des tâches qui était différente suivant les qualités des coureurs qu'on a dans chaque équipe. Et Polite était, à mon avis, en très grande forme, sauf qu'on l'a utilisé sur une portion de course là où il pouvait être le plus efficace. Alors, c'est sûr que quand tu regardes les images comme ça, tu dis, oh, Paulus, il est déjà lâché. Non, il n'est pas déjà lâché. C'est parce qu'il a,
il a fait son taf.
Il a fait son taf avant. C'est pour ça qu'on l'a utilisé là où il est le meilleur. Et donc, après, il a laissé de la place à ses autres coéquipiers. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Paulus était dans une mauvaise journée. Absolument pas.
Moi, je vous dis quand même, je trouve que ce qu'on a vu hier confirme en tout cas que Vingegaard, il reste dans une dynamique positive sur sa saison. Il a eu aucun raté. On l'a pas vu depuis le Giro.
Champion, quand même pas
il est là, il arrive. Non,
le mec, il a quand même battu, il a quand même gagné deux fois le Tour de France.
Ah non, bien sûr. Oui, mais là,
jusqu'à preuve du contraire, c'est le deuxième meilleur coureur du monde sur les grands tours.
Il arrive avec toutes ses armes.
Toutes ses armes est bien différente des autres années.
Il est parti sur un autre schéma.
Sa saison est déjà gagnée. Il a gagné le Giro. Donc, haute préparation. Il passe par le Giro et il l'a gagné. Sa saison est déjà gagnée. Il le dit lui-même dans les interviews d'avant-course. Il dit, physiquement, je me sens très bien et j'ai retrouvé le sourire. Bah, quand t'as un coureur de ce calibre-là.
Il n'a pas oublié qu'il avait eu une chute importante il y a deux ans.
Autour du Pays Basque.
Je pense qu'il il a traîné les séquelles pendant plus longtemps qu'on ne le suppose.
Tout à fait. Et quand t'as un coureur comme lui, plutôt fermé, des fois on a l'impression un peu triste. Alors, c'est pas du tout ça. C'est peut-être parce qu'il est scandinave. C'est un super mec, Jonas Vingegaard. J'adore ce coureur.
Vingegaard, mais quand tu le croises à l'hôtel, il est très sympa. Voilà. Toujours un petit mot.
Et quand lui te dit, j'arrive avec le sourire. Non. Quand il te dit, j'arrive avec le sourire, je suis confiant. Et que son équipe marche bien, ben là, ça nous donne des espoirs, bien sûr.
Vingegaard envoie-t-il un vrai message à Pogacar? Et on a Kevin qui nous appelle au 32-16 et qui nous appelle de Loire-Atlantique. Salut Kevin.
Salut Georges, salut Kangueule.
Bon, salut, comment t'as vécu ce chrono hier? Vingegaard en jaune pour la première fois depuis 3 ans, qui a déjà 12 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. C'est un message pour toi?
Eh ben écoute, déjà moi je vais dire que j'ai adoré le format parce que hier dans l'after tour là, on était j'entendais les deux Jérôme qui étaient je sais qu'on n'est pas d'accord, j'ai entendu hier, mais en tant que spectateur, moi j'ai bien aimé ce format là et je me dis que même si on avait eu une bosse dès le début, ça aurait posé d'autres problèmes tactiques aux équipes et moi je trouvais ça intéressant. Maintenant, le message d'hier, pour moi, il est plus envoyé par l'équipe Visma que par Vingegaard lui-même. Parce qu'on voit qu'ils font à peu près jeu égal finalement sur la montée. Vingegaard, il a dit ok, je suis là, je suis au niveau et je suis prêt à répondre. Et pour moi, par contre, l'équipe a été solide et envoie un message à Pogacar parce qu'il va y avoir bien sûr les étapes de montagne, mais il y a plein d'étapes de transition, des étapes pièges. Et le message qui a été envoyé, c'est que écoute Pogacar, si à un moment donné t'as un petit pépin, un petit souci, c'est toute une équipe pour appuyer. On sera là pour appuyer là où ça fait mal et aller reprendre peut-être quelques secondes et voire des minutes sur des endroits où on n'attend pas. En 1 contre 1, je pense qu'il n'y a pas de débat, Pogacar reste le plus fort. Par contre, il y a une équipe qui est pas mal. Juste pour finir, Georges, si je peux faire un tout petit instant promo, parce que j'en avais parlé déjà, mon podcast Planet Sport Junior commence à grandir petit à petit. Et donc demain matin, il y a un épisode qui sort. Et on fait notamment un zoom sur Lenny Martinez avec sa quête du maillot à poids. Donc si vous avez des enfants qui sont passionnés de sport, c'est sur toutes les plateformes Planet Sport Junior. Voilà.
Vous avez vu, on a les auditeurs qui sont des professionnels, qui ont même leurs propres émissions. Kevin, suivez le Tour de France, l'intégral Tour, il vous appartient à tous et vous pouvez tous participer. Merci Kevin d'avoir été avec nous au 32-16. Les gars, aujourd'hui, Tarragone-Barcelone, on l'a dit, avec un circuit autour de Montjuïc, on va monter plusieurs fois cette bosse qui est très difficile. Pogacar avec un petit débord d'une dizaine de secondes sur Vingegaard. Est-ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui à ce que les favoris se mettent sur la gueule? Voilà, pour y aller directement.
Si on arrive groupé à Barcelone, oui. Va forcément y avoir match. Après, c'est quand même une étape particulière. On est sur le bord de mer. On va souvent être dans des agglomérations. Ça va être nerveux. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de tensions dans le peloton et ce, dès les premiers kilomètres. Après, tout dépend comment la course va s'installer. Je pense que de toute façon, Visma va pas chercher à contrôler la course, mais connaissant Vingegaard et connaissant les gens de Visma, ils n'aiment pas courir derrière, ils courent devant, parce qu'ils ont peur de tout. Donc, à partir du moment où ils ont peur de tout, ils vont vouloir être devant. Donc, s'ils sont devant, ça va les forcer à rouler pour rester devant. Donc, on peut s'attendre à quelques tentatives d'échapper. Je crois plus à une arrivée massive au pied de Barcelone, au pied de Montjuïc, pardon, à Barcelone, pour qu'on ait un vrai match de puncher.
Jérôme?
Après, il faudra regarder aussi la.
Est-ce que Pogacar n'a pas envie peut-être de rétablir quelque chose?
Alors, rétablir, non.
Il ne va pas chercher, mais si l'occasion se présente.
Si l'occasion se présente, il va y aller. Ça dépendra beaucoup du vent aussi. Ouais. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais si le vent se lève, ça sera vent de face dans la montée de Montjuïc. Donc, ça change un petit peu la donne. Par contre, ce n'est pas impossible de voir Pogacar attaquer dans l'avant-dernier passage de la bosse, par exemple, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, à 15 kilomètres de l'arrivée à peu près. Là, c'est possible. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il veut? Hier, je disais dans le podcast.
Et les placements vont jouer un grand rôle.
Voilà, le placement.
Dans l'after-tour sur l'application RMC, hein, vous l'écoutez sur la radio digitale.
Hier, je disais, est-ce que finalement la bonne opération, elle n'est pas pour Tadej Pogacar, qui n'a pas pris le maillot jaune, qui n'aura pas le poids de la course à contrôler?
Et le protocole?
Alors, il y a été quand même pour le maillot à poids. Mais alors, est-ce qu'il va vraiment se lancer dans le boulot aujourd'hui, au risque, entre guillemets, si on peut parler de risque, de prendre le maillot jaune et justement le protocole, etc., etc. Je ne sais pas, mais si une occasion se présente, il va pas la manquer.
168 km entre Tarragone, vous l'avez dit, le long du littoral jusqu'à Barcelone. Ça part à 13h55, intégral tour dès 13h sur RMC et sur votre application RMC, également la radio digitale RMC 100% route, pour écouter notamment l'after tour après l'étape. 4 difficultés, je le disais, 3 ascensions donc de la côte du château de Montjuïc, c'est 1,6 km à 9,3% de pente moyenne. C'est pas la même ascension d'ailleurs qu'hier, c'est une ascension encore un peu plus compliquée.
Ça va être violent.
Et
surtout quand on se remémore ce qu'on a vu hier avec certains coureurs qui étaient victimes de crampes sur une toute petite montée, et pourtant des très bons et des très grands coureurs. Je pense qu'il va y avoir de la tension sur le final de l'étape et va surtout y avoir aussi une grande guerre de placement.
Plus de 30 degrés aujourd'hui sur la route du Tour. Vingegaard envoie-t-il un vrai message à Pogacar? Résultat du sondage, vous dites non à 74%. Ça n'a pas bougé, les amis, ce qui veut dire
74%,
que...
74% Haute-Savoie.
C'est pas mal. Et dernière précision, la première question du débat d'hier prend tout son sens. Bravo Georges. Est-ce le tour le plus excitant depuis des années? Eh bien, après un jour, oui, définitivement, oui, cette tour est excitant. Ouais, bravo, Georges.
Attends, il reste quand même 3 semaines.
Allez, dans un instant, on va parler de l'équipe de France. Mbappé est-il devenu un grand capitaine sur ce mondial? On va écouter sa punchline après la victoire face au Paraguay, difficile hier en 8e de finale. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct de Barcelone.
Georges Quirino.
De Barcelone pour le week-end du grand départ du Tour de France. Deuxième étape aujourd'hui entre Tarragone et Barcelone, à suivre des 13h dans l'intégral Tour. On est avec Jérôme Coppel, Marc Madiot et Pascal Duprat. Dans un instant, le zapping. On va parler Formule 1 parce qu'il y a un Grand Prix à Silverstone à suivre aujourd'hui sur RMC avec Antonelli en pôle. Mais d'abord, les Bleus donc sont en quart de finale de la Coupe du Monde. Ce sera face au Maroc jeudi après la victoire étriquée 1-0 face au Paraguay. C'est Kylian Mbappé qui a transformé le pénalty obtenu par Désiré Doué. Le capitaine des Bleus a débloqué la situation et sa punchline au micro du diffuseur après le match vaut le détour.
RMC, la punchline GG.
On a montré qu'on était pas seulement une équipe qui savait jouer en football offensif. S'il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. Désolé de l'expression. On n'a pas de problème avec ça. Ils pensaient qu'on allait venir jouer en smoking, qu'on allait juste venir faire des belles actions des 1-2. Nous, on sait faire le sale football aussi. Et on l'a fait aujourd'hui, on a gagné. Et même dans ça, on a été meilleur qu'eux.
Les déclarations de Kylian Mbappé, il faut quand même se avoir le contexte, c'est à chaud, hein, vraiment, hein, c'est juste après le match, il est sur le terrain encore, donc il arrive à avoir ces mots-là pour le micro du diffuseur. Je vous pose la question les amis, est-ce que Mbappé est devenu un grand capitaine sur cette Coupe du Monde? Oui ou non d'abord, tiens, Marc?
Oui.
Jérôme? Oui. Pascal?
Oui.
On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Est-ce qu'il y a ton plus des déclats, Pascal, tiens, de Mbappé, juste après la rencontre hier?
Oui, elles m'ont plu parce que il montre sa détermination. Il dit aussi que l'équipe de France, depuis le début de la Coupe du Monde, joue très bien, tout le monde le souligne. Et puis que là, eh bien, elle est tombée sur un os avec une équipe particulière et qu'ils ont su répondre présent dans un domaine où on les attendait pas forcément. Il y a l'attitude d'Mbappé sur le terrain qui est exemplaire. Il est à 7 buts quand même. C'est remarquable et il partage la tête du classement des buteurs avec Messi. Et il y a son attitude aussi parce que défensivement il est impliqué. Il y a son attitude transformée parce que il est généreux dans l'effort mais aussi dans les passes. Il donne des passes décisives alors que on avait plutôt l'habitude de le voir sur son aspect de soliste. Et puis il y a ses déclarations qui sont chaque fois justes, qui montrent la voie à suivre, l'exemplarité du capitaine obligatoire. Et Mbappé remplit toutes les cases depuis le début de la Coupe du Monde. J'espère que ça va continuer. Il n'y a aucune raison que ça ne continue pas. Et il va rester exemplaire jusqu'au bout.
Ce sont des déclarations qui ont fait le tour du monde, hein, je précise, pour Mbappé. Marc, tu le réclamais en plus, ce Mbappé, je me rappelle avant le début de la Coupe du Monde.
J'ai souvent été critique par rapport à Mbappé, et moi je vois en ce moment un Mbappé habité par la Coupe du Monde.
Il est habité par la Coupe du Monde,
il l'a déjà gagné une fois, il a une finale à côté. Imaginons, il remporte cette Coupe du Monde. Il sera encore là dans 4 ans. Ça signifie quoi? Tu regardes l'histoire de la Coupe du Monde de foot. Il vient tutoyer Monsieur Pelé.
Ouais, bah attends, il faut la gagner la troisième.
Déjà. Je pense qu'il est dans ce type-là. Il est dans ce type-là.
Bien sûr. Ah oui, non, mais lui dans sa tête, t'as raison. Ouais.
On le sent habité, quoi. Il est. Quand on le voit s'avancer hier pour aller tirer le pénalty, on sait qu'il va la mettre au fond.
Oui, t'as raison. Il dégage quelque chose.
Ouais. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a eu des critiques à Madrid notamment. Il disait en fait, il s'est servi de sa saison du Real Madrid pour préparer la Coupe du Monde. C'est des articles qui sont passés. En tout cas, dans l'exemplarité, comme a dit Pascal, il y a rien à dire. Même en coulisses, il paraît très sérieux. Il montre l'exemple partout. Et c'est le rôle d'un capitaine finalement. En vélo, on n'a pas de capitaine, mais on a des capitaines de route. On appelle ça comme ça. On n'a pas un brassard officiel, mais c'est la même chose. Tu dois montrer l'exemple sur le terrain, dans tes déclarations et en coulisses.
Pascal. Je reste convaincu que l'histoire des clubs en Europe, et notamment l'insuccès du Real Madrid depuis qu'il y est, je parle pas des buts qu'il marque, hein, je parle des titres qu'il glane avec le Real Madrid, c'est-à-dire zéro depuis qu'il est au Real, et conjointement l'hégémonie naissante du Paris Saint-Germain qui vient de faire le doublé de Champions League, ont contribué à l'attitude actuelle de Mbappé. Mbappé peut évidemment, pas faire l'économie évidemment. De gagner avec l'équipe de France et d'être exemplaire. Ça l'a presque remis, sur les rails. Il veut concourir pour le Ballon d'Or. Il va être en compétition avec Messi, avec Dembélé s'il continue à ce rythme-là. Donc il est focus. Mais cela dit, le comportement à l'extérieur du terrain, dans cette faculté à être le leader de l'équipe, il l'exerce pleinement. Là, franchement, chapeau. C'est là qu'il montre. Quand on a dit souvent, oui, Mbappé est très intelligent, et c'est vrai, hein, il l'est. Il maîtrise deux ou trois langues parfaitement. Hier, on s'en est rendu compte. Hein, si les Paraguayens ils ont les boules après Mbappé, c'est qu'ils leur parlent en espagnol. Hein. Ils leur parlent pas en français, donc ils comprennent. Donc Mbappé, oui, il est intelligent, mais Mbappé aujourd'hui dans son rôle de capitaine, il est excellent.
Alors j'ai beaucoup de messages sur WhatsApp au 06 12 424 424. Alors il y a ceux qui sont vraiment complètement séduits par ce Mbappé capitaine sur cette Coupe du Monde. Il y a ceux qui attendent encore de voir, hein. Voilà, on sait qu'il revient de loin au niveau de la popularité Kylian Mbappé. De Trax me dit, souvenons-nous quand même de ses communications et de son implication défensive calamiteuse pendant des mois. Il sera un grand capitaine s'il reproduit ce schéma. On peut dire qu'il est sur le bon chemin, mais c'est la répétition qui le rendra grand capitaine. Peut-être que la dénomination de grand capitaine est un peu encore difficile à entendre pour certains. Il faut aller au bout, en fait. Il faut le voir soulever la Coupe du Monde. C'est lui qui prendrait le trophée. Hein,
donc, il doit être champion du monde pour prouver qu'il est un bon capitaine. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant, les phases éliminatoires et les matchs-là, tout sera
zappé.
Donc, il sera un mauvais capitaine s'il n'est pas champion du monde. Qu'est-ce qu'il doit faire?
Non,
je suis pas le grand défenseur de Mbappé, mais qu'est-ce qu'il doit faire?
Ce serait bien que le jugement ultime sera la finale ou pas.
Didier Deschamps doit gagner la Coupe du Monde pour assurer une magnifique sortie. C'est la France. C'est comme ça.
Non mais moi il y a un truc qui m'impacte effectivement hier quand il prend la parole, et franchement je pense que tout le monde a été impacté par ça. Moi j'ai reçu plein de messages d'amis, de confrères après la prise de parole de Mbappé au micro du diffuseur celle-ci sur mais voilà ça y est on voit un grand capitaine. Moi j'ai eu l'impression même plus mais c'était un chef de guerre en fait. Hein. Alors évidemment toute proportion gardée. Hein, on n'aime pas utiliser les mots comme ça quand on parle de sport. Mais il a une incarnation. Il est l'équipe de France quoi sur cette Coupe du Monde. Et ça c'est vrai. On le voyait pas. On a l'impression qu'il est vraiment le chef de toute cette équipe et de toute cette génération.
Il est le chef et il n'est pas contesté.
Il a gagné la légitimité du brassard.
Au même titre que l'était Platini, par exemple, ou Didier Deschamps quand il était.
Non, mais cette légitimité, il l'avait pas avant. Hein. Voilà, il faut
en rappeler. Il est le chef sans écraser les autres. Parce qu'on a souvent dit de lui que c'était un individualiste qui tirait la couverture à lui, etc., etc. Là, tu sens qu'il emmène tout le monde avec lui. Tout le monde est dans le même bateau.
Il a le souci des autres.
Mais il a le souci des autres, effectivement. Alors après, il y a des séquences qui font également le tour du monde aujourd'hui. C'est celle où, par exemple, voilà, il ne serre pas la main du gardien paraguayen à la fin du match. Effectivement, voilà, il est dans la provoque également. Alors évidemment, dans le monde, c'est commenté. Certains disent, est-ce qu'un capitaine devrait faire quelque chose comme ça? Est-ce que le comportement de Mbappé à répondre aux provocations, par exemple, Pascal, est répréhensible ou au contraire, ça montre quelque chose de son leadership? Non, aussi mais, dans ce genre de match.
On en a parlé dans le précédent débat, mais l'attitude de Mbappé à la fin du match contre les Paraguayens et l'attitude du groupe France, y compris le staff, c'est la juste attitude. Ils n'ont pas été révérencieux, ils ont juste oublié de serrer la main, ou ils ont fait semblant de ne pas le voir, le gardien de but. Mbappé, il a fait semblant de ne pas le voir. Il lui a tendu la main, mais ça ne méritait pas qu'il lui serre la main. Parce que l'attitude des Paraguayens, ce n'est pas une attitude de footballeurs professionnels qui sont en train de disputer la Coupe du Monde. Je suis désolé. En sens, il a bien fait. C'est aussi là, quand je dis il incarne le vrai capitaine, aussi par cette attitude-là, sans rajouter, il n'y a pas de parole, il n'y a rien, il est heureux d'avoir gagné, et il va célébrer 100% de son énergie positive, il va la communiquer à ses partenaires. Et c'était là le plus important, il a bien fait.
Tiens, moi je pose la question aussi aux anciens sportifs que vous êtes, mais cette prise de parole-là, il sait qu'elle va être reprise, il va être lu, parce que tout le monde lit, hein, les autres nations, évidemment, quand il dit « on sait faire le sale football, les autres pensent qu'on va venir en smoking, mais on est là, on sait jouer, mettre les mains dans la merde, on sait le faire ». Non mais ça c'est un message aux autres nations aussi, c'est un message aux autres nations, aux futurs adversaires. Vous pouvez nous faire des matchs difficiles. Attention, on va être présent. Mais est-ce que ça compte, ce genre de choses? Ça compte dans le milieu politique, tout ça. Est-ce que ça compte dans le milieu sportif?
Mais bien
ce genre de truc.
Bien sûr.
Il y a quand même la réalité du terrain qui
bien sûr.
Finie, détermine tout cela.
Mais maintenant, sur la détermination d'une équipe, est-ce que ça ne dit pas quelque chose quand même?
Si, mais les attitudes, les postures de Mbappé rassurent et démontrent à chaque instant qu'il est rentré dans une autre. Dynamique. Et je pense qu'il va rester là-dessus. Et du côté de l'Espagne ou du Maroc, on l'a certainement observé. Et on sait qu'on va avoir un grand Mbappé sur les prochains matchs.
Si t'es Didier Deschamps, là, tu te dis c'est parfait. C'est
bon. Nickel.
Il n'y a rien à faire.
Bah oui, il y a juste à laisser rouler.
Non, mais quand tu sais Didier Deschamps, il a ce rôle protecteur tout de suite à la fin du match. Il vient voir Mbappé. Il lui a parlé. Il a mis malheureusement sa main ou heureusement sa main devant la bouche. Mais on sent qu'il est très précautionneux.
Ah bon, c'est ce qu'il lui a dit, Deschamps. Pascal. Il lui a dit tu te rappelles du match contre l'Uruguay en 2018 où ils ont failli te découper. Là, en gros, il a dit à ses coéquipiers, faites attention avec Kylian, parce qu'ils vont essayer de découper sur la fin du match. Donc, en fait, même ça dit quelque chose sur ce qu'en présente Mbappé et sur ce que les autres sont prêts à faire pour le protéger.
Bien sûr, mais quand tu fais des déclarations fracassantes, faut que ça soit suivi d'actes. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe très bien. Moi, ce que j'aime bien dans la déclaration, c'est qu'il dit tout à la fin, on sait faire du sale football, mais même ça, on le fait mieux qu'eux. Je veux dire, la pique, elle est incroyable, je trouve. Donc, on fait du sale football, et même là, on est encore meilleur. Et ça, je trouve ça incroyable. Je préfère cette phrase-là que les mains dans la merde. La fin, je trouve, elle est top, mais il y a des déclarations fracassantes et il y a les actes en face.
Bah, voilà, parce qu'il en remet une couche pour les Paraguayens, là, sur cette déclaration, la fin.
Et puis, pour revenir au serrage de main du gardien, je suis désolé, tu te fais insulter, tu te fais limite taper dessus pendant 90 minutes, même plus, tu vas pas tendre l'autre joue pour en prendre une.
Le match, c'est le match. Après, on s'est mis, non?
Bah non, le respect, ça se gagne. T'as pas eu de respect pendant tout le match, tu vas pas, je suis désolé.
C'est quelque chose qu'il faudrait dire à Christophe Cessieux quand il part fâché après les Jeux du sport.
C'est ça. il part fâché après toutes les émissions, c'est un peu le problème.
Tiens, Romain sur WhatsApp me dit, je suis très loin d'être un fan de Mbappé, mais sur cette Coupe du Monde, il est incroyable. Je n'ai vraiment rien à lui reprocher. C'est un vrai capitaine. Et Fred qui nous envoyait un message tout à l'heure, qui voit à chaque fois plus loin sur WhatsApp, qui nous dit, sa prise de parole, c'est pour l'Argentine. J'adore ça à chaque fois. C'est pour penser à des retrouvailles avec les Argentins potentiellement à la finale. On est prêt à ça.
On attend que ça.
Mais vous savez, ça a été repris en Argentine, hein, ça. Hein, pour le coup. Attention, ils sont possédés, les mecs.
C'est pas faux. Hein. Parce que je suis sûr, dans un coin de sa tête, Georges, l'Argentine est truqueuse. On l'a encore vu contre le Cap-Vert. C'est-à-dire qu'ils mettent des boîtes, mais dès qu'on les touche à peine, ils tombent, ils s'effondrent. Ok, donc c'est pas la Comédia dell'Arte, parce que c'est pas le pays, mais quand même, ça y ressemble. Et je suis sûr que dans l'esprit de l'équipe de France et de Mbappé, il y a un moment donné des retrouvailles contre les Argentins.
Ils doivent forcément y penser. Ah bah oui. Ils ne le diront jamais, mais ils doivent.
Ils peuvent même le dire.
Forcément.
Ils peuvent même le dire. Moi, je serais eux, je le dirais.
Ça va venir.
Si jamais... Rappelez-vous, on va se revoir.
Il fait peur quand il est comme ça.
En fait, Marc, il est tout de suite possédé. Il pense tout de suite à tous les leviers qu'il pourrait utiliser pour transformer des gentils joueurs en fauves.
Cela dit, si on s'arrête,
tu peux te retrouver face à certaines personnes avec le simple regard.
À l'instant T, quelle est la finale rêvée à l'instant T là? Il n'y en a pas d'autre que celle-ci. Hein. Franchement.
France-Angleterre, c'est pas mal aussi. Hein.
France-Argentine en 2000.
Ouais. Effectivement, ce serait digne d'une grande série, très certainement. Les Anglais, ce serait bien aussi. Mais avant cela, il va quand même falloir battre les Marocains, allez, les amis.
On revient au boulot.
Jeudi à 22h. Ah, non, mais Marco, il était déjà dans un autre monde, là. Il avait envie de faire là, le discours d'avant-match. Allez, on revient dans un instant, les amis, pour le zapping. On va parler de Formule 1, on va parler de la Coupe du Monde, hein, parce qu'il y a quand même de sacrés matchs ce soir et de Wimbledon. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct de Barcelone.
Georges Quirino.
Pour le week-end grand départ du Tour de France, deuxième étape aujourd'hui, Tarragone-Barcelone, à suivre dans l'intégral tour dès 13h avec Christophe Cessieux et toutes ses équipes, avec une partie de ses équipes aujourd'hui, parce que Jérôme Coppel est avec nous, avec Marc Madiot, avec Pascal Duprat. Dans un instant, on va reparler de l'équipe de France. Est-ce que le Maroc est un adversaire inquiétant en quart de finale? Et on va parler de Paul Sexas, relégué à une trentaine de secondes au général après le chrono par équipe. Il dit on a limité la casse. Est-ce que sa première journée est positive? On va en parler ensemble, alors qu'une deuxième journée piégeuse l'attend aujourd'hui. Allez, tout de suite, le zapping.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Allez, je m'en fous pas, les amis. Erling Haaland face à la Seleção ce soir. Pascal.
Ah, je m'en fous pas.
Marc.
On s'en fout pas.
Et Jérôme, et oui, effectivement, puisque donc les affiches aujourd'hui, c'est Mexique-Angleterre à 2h à l'Estadio Azteca. Mais avant, il y aura à 22h le Brésil face à la Norvège. Ce sera à New York. Tiens, écoutez Erling Haaland parler de cette confrontation.
C'est énorme. Affronter le Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde, c'est le genre de match dont tu rêves quand tu es enfant. Je profite simplement de cette aventure.
Voilà, il veut profiter, Erling Haaland qui est très performant jusqu'à maintenant. Alors, qui est favori de cette rencontre? Tiens, est-ce que le Brésil est si favori que ça de par son histoire, Pascal?
Difficile. S'il n'y avait pas eu la deuxième mi-temps des Brésiliens contre les Japonais lors du dernier tour, j'aurais dit la Norvège. Mais
ils sont passés sur le fil, hein.
Ouais, mais ils ont fait une très belle deuxième mi-temps malgré tout contre les Japonais. Donc le Brésil un tout petit peu favori, mais attention, c'est norvégien.
Ouais, Jérôme.
Ben ouais, peut-être surtout une équipe qui a rien à perdre, la Norvège, qui se voyait même pas passer les qualifications, et t'as le Brésil qui, si eux se font éliminer là, par contre, c'est un désastre pour le pays entier. Donc ça, la pression, ça change. Je sais pas qui est. Je mettrais quand même le Brésil un petit peu au-dessus, mais il y a pas beaucoup de marge.
Hein. Ouais, pas beaucoup de marge, franchement. Et la pression de tout un pays, on sait pour la Seleção, la Norvège qui joue.
Le Brésil va falloir qu'il marque les premiers.
Ouais. Oui, c'est vrai, parce que c'est une équipe norvégienne.
Ça peut partir en limonade. Si tu marques pas les premiers.
Non, mais surtout, si tu marques pas le premier, ouais. Les Brésiliens ils peuvent être attrapés par la pression aussi, ouais. Et ça sera difficile à gérer. Même s'ils l'ont géré face au Japon, la Norvège.
C'est pas le Japon non plus, même si le Japon.
C'était pas facile.
Voilà.
Mais là, il
était bien.
C'est aussi bien que la Norvège. Et les Japonais menaient au score. Attention, les Brésiliens ont fait ce qu'ils
fallait. Là, t'as des individualités, peut-être Pascal, avec Odegaard, avec Haaland notamment, qui peuvent plus faire la différence que face au Japon lors de la dernière confrontation.
Oui, les Norvégiens vont regarder certes les Brésiliens droit dans les yeux. Et moi, je vois ce match aller loin et davantage que le temps réglementaire. Ouais, on n'est pas dans les paris.
Hein. Ça sera tout à l'heure à partir de midi, Pascal. Ce sera à suivre sur RMC, évidemment, les deux rencontres. Allez, on zappe. Je m'en fous pas. En Formule 1, les Ferrari, encore en embuscade derrière le Poleman Kimi Antonelli à Silverstone. Marc.
On s'en fout pas.
Jérôme.
Je m'en fous.
Pascal.
Je m'en fous pas.
Départ du Grand Prix à 16h à suivre sur RMC avec Jean-Luc Roy en commentaire. Le leader des championnats du monde devance les voitures rouges de Leclerc et Hamilton. Le Britannique deuxième de la course sprint derrière Antonelli, 19 ans, a pris une sacrée joute hier. Antonelli qui, je vous rappelle, a gagné 5 Grands Prix cette saison. Antonelli sur le circuit du roi Hamilton là, qui arrive à résister, Marc.
Non, il vole. Je crois qu'il est... Il est sur orbite pour aller chercher le titre de champion du monde parce que si aujourd'hui il concrétise sa pole en victoire, Il va encore augmenter son avance, les courses défilent et on sent qu'il est, il est déjà dans les habits du champion du
monde. Donc t'es d'accord avec moi, on s'en fout.
C'est toujours pareil, il est devant,
il domine, il a de la marge sur la batterie, Ferrari est deuxième et troisième sur la grille, voilà, c'est tous les grands prix pareil.
Donc Ferrari grignote,
oui,
Hamilton est de nouveau dans son rôle de grand champion, mais néanmoins je suis complètement d'accord avec Marc, Antonelli, il faut se rappeler que c'est un gamin, hein. Donc, mais bon, il est bluffant.
C'est plus le même que l'année dernière.
C'est un grand prix qui peut être important peut-être sur la suite de la saison. Parce que Hamilton arrive à scorer,
il faut qu'Hamilton gagne pour que le championnat reprenne un peu de suspense. Ouais, faut qu'il gagne. Il faudrait qu'Antonelli fasse une contre-performance.
On attend de voir ça évidemment.
Chose,
le départ à 16h de ce Grand Prix de Silverstone, toujours très attendu, hein, sur une évidemment. Piste mythique. Bien sûr, même si on peut plus aller à fond comme avant à cause de la
réglementation.
Ça, c'est
un peu ennuyeux quand même. C'est dommage.
Parce qu'il faut récupérer d'énergie dans les virages. Allez, on zappe les amis. Juste, je m'en fous pas, parce qu'on en a beaucoup parlé. Après avoir été battu en simple au premier tour de Wimbledon, figurez-vous que Serena Williams jette l'éponge en double. Jérôme.
Je m'en fous.
Pascal.
Ouais, je m'en fous pas.
Marc.
Oh, je m'en fous.
Vous en foutez, Pascal s'en fout pas, donc on va y aller. Si vous embêtez pas, les gars.
Hein.
44 ans, donc l'américaine, elle renonce au double avec sa sœur aînée Vénus. Hein, souvenez-vous, en raison d'une blessure au genou. En fait, elle dit s'être blessée lors de sa défaite en simple mardi, qui était son premier simple depuis 4 ans, où elle a été battue. Elle dit ceci: j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être prête, mais malheureusement, mon genou n'est tout simplement pas encore prêt pour la compétition. Elle a accompagné ça de son message de photo où l'on voit notamment une des grosses seringues sur son genou. Où on a extrait un gros liquide jaune, hein, en fait, le genou vraiment en vrac. Après le
Tour de France.
Du coup, elle reste. Oui, dès qu'on parle de seringue, tout de suite, on peut plus prendre le départ. Non, mais Pascal, quand même, franchement, le retour de Serena, là.
Moi, je trouve qu'il
qu'est-ce
est
qu'on
manqué,
peut en dire, franchement.
Ouais, je trouve qu'il est manqué. Déjà, je pensais qu'elle ne ferait que le double. Quand j'ai appris qu'elle s'inscrivait en simple, j'ai dit, franchement, c'est comme si les joueuses contemporaines étaient vraiment nulles à désespérer, quoi. Donc, même si ça a été une grande championne. Donc, voilà, je trouve que c'est un retour manqué. Moi, c'est un avis. Il est tout personnel, mais c'est manqué. Voilà.
Ouais, c'est vrai que c'est un retour dont on espérait plus, peut-être, on pensait à Serena Williams, c'est certainement elle aussi. Elle a resté très évasive pour l'instant sur une éventuelle participation à l'US Open. Tiens, la vainqueur sortante, Iga Swiatek, a été éliminée hier. Novak Djokovic sur les cours aujourd'hui. Allez, les amis, les grandes gueules du sport, on va revenir dans un instant. On va reparler de l'équipe de France. Dès 11h, le Maroc est-il un adversaire inquiétant pour les Bleus? Et puis, on n'a pas encore parlé de Paul Sexas, alors qu'on est sur le Tour de France et qu'on parle que de ça depuis le début de...
Ça fait 2 heures que l'émission est commencée.
T'imagines, c'est la première fois que je disais son nom, je pense.
Ah, dis donc.
Ah non, mais c'est fou. On a même parlé, on a parlé de Romain Grégoire avant. C'est bien, tu vois.
C'est peut-être parce que j'étais là.
On avance, Marco. J'ai l'impression que t'as une grosse influence sur nous. La première étape du Français est-elle positive? Il est à plus d'une vingtaine de secondes au général. On en parle avec vous, évidemment, au 32-16 sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.